VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition du lundi 31 juillet 2017. Morgane Guériec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, les législatives au Sénégal, la coalition au pouvoir devrait conserver sa majorité au futur Parlement. Affrontements et arrestations en République démocratique du Congo suite à l'appel à manifester contre le président Kabila. Au Kenya, un responsable de la commission électorale retrouvé mort à une semaine des élections générales. Et puis, les nouvelles sanctions des États-Unis contre la Russie ont relancé la confrontation entre Moscou et Washington. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, je vous propose le journal. République démocratique du Congo, l'organisation Lucha, lutte pour le changement, appelée à manifester aujourd'hui à travers le pays contre le président Kabila et pour la tenue d'élections avant la fin de l'année. À l'arrivée des affrontements entre policiers et manifestants, ainsi que plusieurs arrestations. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À Kinshasa, c'est vers 10 heures que la police a violemment dispersé sur le boulevard Triomphal la marche de la Lucha, avec à la clé une dizaine d'arrestations selon des sources policières, une cinquantaine selon la Lucha. Parmi eux, des journalistes qui ont été relâchés quelques heures plus tard. Manifestations dispersées également à Goma au Nord Kivu, où la police parle d'une quarantaine de personnes arrêtées. La Lucha, elle, en évoque une cinquantaine. Dispersions et arrestations signalées aussi à Beni et à Butembo, toujours dans la province du Nord Kivu. Plus violente a été la dispersion de la marche à Bukavu, où des sources onusiennes parlent de 5 blessés par balle et de nombreuses arrestations. C'est d'ailleurs pour protester contre cette réaction jugée inappropriée de la police que la société civile de la province annonce une journée ville morte pour ce mercredi 2 août 2017. À Lubumbashi également a été prévue une marche à l'appel de la Lucha relayée par plusieurs acteurs politiques de l'opposition. Là-bas, on signale que l'activité a été également dispersée avec un bilan de 7 personnes arrêtées, dont un journaliste qui a recouvré sa liberté quelques minutes plus tard. Enfin, à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, la société civile annonce que toutes les personnes arrêtées dans la matinée puisqu'elles manifestaient ont été relâchées. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Centrafrique, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, envisage de demander des éléments additionnels pour la MINUSCA. Il a par ailleurs annoncé que l'ONU est en contact avec la Zambie et la Tanzanie pour remplacer quelques 600 soldats congolais rentrés à Brazzaville suite à des accusations d'abus sexuels. Le ministre français des armées est à N'Djamena pour faire le point sur la mise en place de la force anti-djihadiste dans la région. Après une rencontre avec le président tchadien Idriss Déby Itno, Florence Parly se rend à Niamey pour rencontrer le président nigérien Mahamadou Issoufou, puis visiter les forces françaises à Gao en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les pays du G5 Sahel veulent mettre en place une force conjointe en septembre-octobre. En Algérie, l'armée dit avoir tué 6 islamistes armés lors d'une opération à l'ouest d'Alger. Selon un décompte de l'AFP, l'armée a tué 71 islamistes armés et arrêté 23 depuis le début de l'année. Burkina Faso, le ministre de la Culture et du Tourisme, Taïrou Barry, a été exclu de son propre parti selon une motion de cette formation publiée aujourd'hui. Le Parrain, qui dirigeait depuis 2010, lui reprochait de refuser l'alternance à la tête du parti. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Au Kenya, un haut responsable informatique de la commission électorale a été retrouvé mort. Chris Nsando était porté disparu depuis 3 jours. Le pays tient des élections générales dans une semaine, le 8 août. Salwa Jafari.
Il n'y a aucun doute, il a été torturé puis assassiné, a déclaré Wafula Tshebukati, président de la commission électorale. Selon lui, la seule question est qui l'a tué et pourquoi a-t-il été tué quelques jours seulement avant les élections. Il a fallu presque 48 heures pour identifier le corps qui a été livré à la morgue par la police samedi dernier. La mort de ce cadre de la commission électorale et l'attaque hier du domicile du vice-président font craindre des violences post-électorales. Le 8 août, les Kenyans sont appelés à désigner leur président, gouverneur, député, sénateur et élus locaux. La présidentielle s'annonce serrée entre le sortant Uhuru Kenyatta et son grand rival Raila Odinga. La campagne a été très mouvementée. Le pouvoir reproche à l'opposition de chercher à diviser le pays et à attiser les violences. L'opposition, de son côté, accuse le pouvoir de vouloir truquer les élections.
Présidentielle du 10 octobre au Libéria, qui succédera à Ellen Johnson Sirleaf? La commission électorale a annoncé que 20 candidats, dont l'ex-star du football George Weah et un ancien chef de guerre, brigueraient la présidente. Après deux mandats successifs, Madame Sirleaf, 78 ans, première femme élue chef de l'État en Afrique en 2005, réélue en 2011, après avoir obtenu le prix Nobel de la paix, ne pourra pas se représenter. En Somalie, l'armée ougandaise a annoncé avoir perdu 12 soldats de la mission de l'Union africaine en Somalie. L'embuscade a été menée hier par les islamistes Chebab dans le sud du pays. Et en Libye, le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, se félicite du vote par l'Assemblée constituante d'un projet de constitution appelant à organiser comme prévu un référendum pour soumettre le texte aux Libyens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les nouvelles sanctions des États-Unis contre la Russie ont relancé la confrontation entre Moscou et Washington. Le gouvernement américain affirme qu'il réagira au renvoi de ces 755 diplomates décidés par la Russie. On fait le point avec Jacques Aristide.
La mesure est d'une ampleur inédite, annoncée par le président russe lui-même. Vladimir Poutine a indiqué qu'au 1er septembre, le personnel des ambassades et consulats américains devrait être ramené à 455 au niveau des effectifs des représentations russes aux États-Unis. Il s'agit là de la riposte directe de Moscou aux nouvelles sanctions économiques votées la semaine dernière au Congrès américain. Dénonçant un acte regrettable et injustifié, le département d'État américain d'y réfléchir à une réponse. Pour sa part, le porte-parole du Kremlin regrette que pour l'heure, les deux pays soient loin d'un développement solide de leur rapport. Pour des observateurs, après la dégradation de ces liens sous Barack Obama, les espoirs de réchauffement suscités par l'élection de Donald Trump se sont évanouis. Les marchés financiers russes, qui avaient progressé après l'élection de M. Trump, accusent le coup. Le rouble s'est échangé à la baisse ce lundi.
Ici à Washington, le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, a pris ses fonctions ce matin. Ancien général des Marines, il était jusqu'ici ministre de la Sécurité intérieure. Incertitude au Venezuela au lendemain de l'élection sanglante de l'Assemblée constituante qui renforce les pouvoirs du président Nicolas Maduro. Traversant une très grave crise économique, le pays est plus divisé que jamais. Claire Morin-Gibourg.
Le trafic a semblé normal à Caracas, avec de visibles restes des barricades de la veille. Le scrutin a été marqué par des violences qui ont fait 10 morts, portant à plus de 120 le nombre de personnes tuées en 4 mois de manifestations antigouvernementales. Le vote a été boycotté par l'opposition. L'Assemblée constituante de 545 députés doit rédiger une nouvelle constitution, remplaçant celle promulguée en 1999, par le défunt président Hugo Chavez. Nicolas Maduro a évoqué un scrutin historique avec 41,5% d'électeurs, mais l'opposition conteste ces chiffres et a appelé à de nouveaux rassemblements. L'Union européenne a fait part de sa préoccupation sur le sort de la démocratie au Venezuela et les États-Unis ont menacé de nouvelles sanctions. Washington a déjà condamné 13 anciens et actuels responsables vénézuéliens à des sanctions financières.
L'ambassade d'Irak à Kaboul cible d'une attaque coordonnée de plus de 4 heures. Les 4 assaillants, dont un kamikaze, ont tous été tués par les forces afghanes. Aucun diplomate n'a été blessé. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. En Syrie, l'accès à la nourriture dans Raqqa, bastion assiégé du groupe État islamique, est arrivé à un point critique. Les habitants ne peuvent plus compter que sur leurs réserves, d'après un réseau d'ONG humanitaires opérant autour de la ville. Il faut dire que Raqqa est le théâtre depuis près de 2 mois de violents combats pour déloger le groupe État islamique. Au Yémen, 5 membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués par un drone dans la province de Marib, d'après les services de sécurité yéménites qui attribuent l'attaque aux États-Unis. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, les attaques américaines contre les djihadistes se sont intensifiées au Yémen. Un premier raid terrestre a été mené en janvier et des frappes de drones ont lieu régulièrement depuis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, la Minute Éco.
Frappé par la récession économique, le Nigeria se tourne davantage vers la riziculture. Sa production de riz connaît aujourd'hui un véritable boom avec environ 5,7 millions de tonnes de riz, soit presque 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Pour Francis Nuilene du centre de recherche Africa Rice, le Nigeria vit une révolution de l'or blanc. Les gens, dit-il, ont compris qu'ils ne pouvaient plus dépendre du pétrole, qui assure 70% des recettes de l'État. Premier consommateur de riz africain, le Nigeria en est aussi un des principaux importateurs au monde, malgré de vastes terres fertiles sous-exploitées. Les habitants de la province du Haut-Lomami en RD Congo sont confrontés à une hausse des prix des denrées alimentaires en raison de l'effondrement depuis plus d'une semaine du pont Lubilanji. Le bureau de l'Assemblée provinciale appelle les autorités à construire d'urgence un pont adapté au trafic routier pour favoriser la circulation des marchandises. Le groupe minier Anglo American indique avoir mis de côté 101 millions de dollars pour faire face à une action collective lancée en Afrique du Sud par des mineurs atteints de silicose. Les plaignants affirment avoir contracté cette maladie pulmonaire en travaillant des années dans des conditions dangereuses. Leur action pourrait concerner jusqu'à 1,5 million de personnes et coûter des centaines de millions de dollars aux géants miniers.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Coup de tonnerre en Espagne, après Messi, c'est Cristiano Ronaldo qui est mis en examen pour fraude fiscale.
L'international portugais de 32 ans a été entendu par un tribunal de la banlieue de Madrid. Le quadruple ballon d'or a cependant assuré dans un communiqué être un contribuable sans reproche. Je fais toujours mes déclarations d'impôts de façon volontaire parce que je pense que nous devons tous déclarer et payer nos impôts en fonction de nos revenus. La star du Real Madrid aurait utilisé entre 2011 et 2014 un montage financier de sociétés basées à l'étranger pour éviter de payer en Espagne des impôts sur les revenus. Il aurait donc dissimulé près de 15 millions d'euros. Ce rendez-vous judiciaire lui avait d'ailleurs fait manquer le premier classico amical entre son club, le Real Madrid, et le FC Barcelone, perdu 3-2 par les champions d'Espagne.
Autre star de la Liga sur le devant de la scène, le Brésilien Neymar, qui semble se rapprocher du PSG.
Neymar a passé ce lundi à Shanghai, où le footballeur brésilien a participé à des événements promotionnels et rencontré son compatriote Hulk, l'attaquant du FC Barcelone, qui pourrait faire l'objet d'un transfert record de 222 millions d'euros vers la France, devrait réaliser une escale à Doha pour finaliser sa signature au Paris Saint-Germain et passer sa visite médicale. Selon le quotidien El Watan, il devrait même arriver ce mardi au Qatar, juste après sa tournée promotionnelle en Chine. À cette occasion, Neymar rencontrera le président du club parisien, Nasser El Khelaifi.
Autre transfert ?
Nemanja Matic s'est officiellement engagé pour 3 ans avec Manchester United. Le milieu international serbe de 28 ans quitte Chelsea, où il a remporté le titre en Première Ligue la saison passée. Selon la presse anglaise, le montant du transfert est estimé à 45 millions d'euros. On parle aussi de Tours qui annonce la signature de Mayor Ndoye. Ce lundi, le milieu sénégalais de 25 ans s'est engagé pour 2 ans avec le club français. La saison passée, il avait participé activement à la remontée de Strasbourg en Ligue 1. Le montant du transfert n'a pas été révélé.
Micho ne va plus entraîner les Cranes de l'Ouganda.
Le technicien serbe a résilié son contrat avec les responsables ougandais du football. La cause, le salaire impayé depuis plusieurs mois. Arrivé en mai 2013 à la tête de la sélection de l'Ouganda, Milutin Micho a réussi à qualifier le groupe pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017, chose qui n'était plus arrivée depuis 39 ans. Il a aussi qualifié l'Ouganda pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgan Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Au Sénégal, la majorité présidentielle devrait remporter les législatives d'hier. Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs 165 députés, dont 15 représentants de la diaspora. Cette large victoire annoncée du camp présidentiel est-elle une surprise? Pour analyse, Idriss Fall a joint Moussa Diaw, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.
Ce n'est pas une surprise. Hein. La situation politique, notamment les coalitions, se sont fragmentées. Parce qu'au début, au niveau de l'opposition, il y avait une initiative qui consistait à rassembler l'ensemble des partis de l'opposition. Mais par la suite, il n'y a pas eu un consensus. Et cette fragmentation a profité à la majorité. Au moment où il y avait cette union, tout le monde se disait, enfin, ils arrivent à dépasser leurs contradictions internes, des conflits d'intérêts, des conflits de leadership, pour s'inscrire dans une logique collective. Mais ça ne s'est pas fait. Cette dispersion de l'opposition a ouvert donc une brèche considérable à la majorité et qui n'a pas lésiné sur les moyens.
47 listes électorales.
Ces 47 coalitions-là ne représentent pas grand-chose. À la lumière des résultats, on se rend compte que ce n'était pas du tout consistant. Ça veut dire qu'il y a des manœuvres politiques derrière ces listes-là. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un problème de rationalisation des partis politiques. Actuellement, on tourne autour de 285 partis politiques au Sénégal. Ce qui est énorme pour 14 millions d'habitants. Il va falloir rationaliser. Il y a des partis qui n'ont qu'un seul leader. La législative est tellement élastique de manière à permettre n'importe quelle personne à former un parti politique. Alors que ce n'est pas ça l'objectif d'un parti politique.
L'Abdoulaye Wade, l'ancien président, battu dans son propre bureau de vote, mais gagne à tout bas quand même.
Ça veut dire tout simplement, Abdoulaye Wade est un chef charismatique, il a été président de la République, il a son parti, il a des fidèles, il a un fief au Abdoulaye Wade. Tout bas, ça fait partie de ses fiefs. Mais son problème, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas restructuré son parti politique. C'est lui seul, c'est lui le leader. Il a voulu mettre son fils, ça n'a pas marché. Et je crois qu'il doit tirer des leçons par rapport à cette défaite-là.
À 91 ans, ça va, quoi. Il peut aller à la retraite, quoi.
Ah oui, il est temps qu'il pense, mais quand on entend parler, il n'est pas prêt à céder. Physiquement, il ne tient plus. Le meilleur service qu'il rendrait à son parti, de le réorganiser, de le restructurer et de passer la main.
Le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a battu campagne en prison, aujourd'hui revendique la victoire à Dakar.
Il y a une bataille des chiffres là, à Dakar. Et l'opposition ne veut pas céder. La Médina, l'opposition a gagné. Guédiawa, l'opposition a gagné. Celle à Séné, où il y avait le ministre de l'économie et des finances, a été battu. À Grand Yoff, c'est l'actuel maire emprisonné qui a gagné. Donc l'opposition revendique la victoire de Dakar, la bataille des chiffres pour Dakar. Dans ces heures qui viennent, on en saura davantage de façon précise.
Voilà, c'était le professeur Moussa Diaw à l'université de Saint-Louis au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, le délai sollicité par la Commission électorale nationale indépendante pour boucler l'enrôlement des électeurs expirait aujourd'hui. Des élections doivent être organisées d'ici la fin de l'année, conformément à l'accord conclu le 31 décembre 2016 sous l'égide de l'Église catholique. Mais déjà, le président de la CENI estime qu'il n'est pas possible d'organiser ce scrutin avant la fin de l'année. Solange Nyamulisa a joint Henri-Désiré Nzouzi, consultant médias et diplomatiques pour un état des lieux.
Il faut une volonté politique, même si d'un point de vue technique, ça paraît peu probable, mais il faut que toutes les conditions soient réunies, à la fois matérielles, humaines et politiques, pour pouvoir y parvenir. Autrement, il faudra se résoudre, malheureusement, à les organiser dans des délais plus raisonnables, c'est-à-dire dans un horizon de 6 mois. Après la fin de l'année.
La CENI n'est pas prête. Il y a toujours de l'insécurité dans le Kassai et certains coins du Kivu.
Oui, effectivement, ce sont des éléments objectifs qui, d'une certaine manière, pourraient justifier le report du scrutin, même si le président de la CENI a annoncé il y a quelques semaines que cela paraissait peu probable. Aujourd'hui, il y a un déficit de confiance au sein de la classe politique, parce que le régime est soupçonné de vouloir faire durer les choses indéfiniment. Donc il faut envisager un mécanisme qui puisse rassurer les uns et les autres pour aller à ces élections de manière apaisée.
Il y a la CENCO qui dit que les élections sont possibles d'ici la fin de l'année.
Mais la réaction de la CENCO est tout à fait légitime, dans la mesure où la CENCO a eu cette responsabilité de faire la médiation lors du dernier dialogue. Encore une fois, aller aux élections est une chose, les organiser en est une autre. C'est à ce niveau-là qu'il faut impérativement que les acteurs et les parties concernées puissent renouer les fils du dialogue pour pouvoir créer les conditions d'une élection apaisée.
Faut-il un dialogue de plus pour organiser les élections ?
Non, pas nécessairement. On peut partir de là où nous nous sommes arrêtés. Tout le monde est d'avis que la signature de l'arrangement particulier ne s'est pas faite dans les règles. Tout le monde sait par ailleurs que la nomination du Premier ministre actuel ne s'est pas faite dans l'inclusivité. Il y a un certain nombre de règles qui n'ont pas été respectées. Si l'on repart des problèmes qui fâchent, essayer de déblayer la situation et de trouver un consensus, je pense qu'il est possible d'arriver à un compromis. Mais cela ne nécessite pas nécessairement la mise en place d'un nouveau cadre de discussion. Il suffit simplement de repartir de là où nous sommes arrêtés.
Que pensez-vous des différentes manifestations pour exiger la tenue des élections d'ici la fin de l'année ?
Elles sont tout à fait justifiées dans la mesure où il y a eu une énorme attente de la part de la population congolaise et ses espoirs ont été constamment déçus. La situation sociale extrêmement explosive et volatile, ce qui me fait craindre une réaction, pas aux conséquences, je dirais, imprévisibles.
Henri-Désiré Nzouzi, consultant média et diplomatique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Burkina Faso, le ministre de la Culture et du Tourisme, Taïrou Barry, a été exclu de son parti politique par un congrès ordinaire en son absence. Il lui reprochait de refuser l'alternance à la tête du parti qu'il dirigeait depuis 2010. Le Parti pour la Renaissance Nationale, parraine, est l'un des partis de l'opposition burkinabé. Pour des explications sur l'exclusion du ministre Blanche Sanou, a joint le professeur Laurent Bado, fondateur du parti. Parraine, député enseignant à l'université de Ouagadougou.
J'ai opté pour l'alternance dans mon parti après avoir été président d'un mandat de 3 ans. Et j'ai dit aux autres, à chaque nouveau mandat, je nommerai un nouveau président. Si vous voulez bien, puisque nous on est pauvres, on ne peut pas nous asseoir sur le territoire national facilement. Mais si aujourd'hui c'est un gourouchi, moi le fondateur, je suis le président. Si demain c'est un mouchi, si après demain c'est un bobo, si après c'est un peul, mais ça ramènera le parti justement dans sa zone et c'est pour ça qu'on lève des assises. Et c'est ainsi qu'on est allé jusqu'à nommer le 4e président qui est ce type-là. C'est le plus justement, celui qui est le 4e président. Mais lui maintenant, il refuse l'alternance. Il refuse de quitter son fauteuil quand c'est lui qui a créé le parti. Alors qu'il y a tout un congrès qui m'avait donné tous les pouvoirs. Voilà, le congrès, quand je quittais, la tête de mon parti a dit « Je suis le père de ce parti ». Alors je peux reformer toutes les décisions de toutes les instances. Je dois proposer au peuple, au Congrès, le candidat à la présidence. Et troisièmement, alors s'il y a quelque chose qui ne va pas, j'organise un congrès pour rétablir l'ordre.
Quelle est votre décision par rapport au poste de ministre de la Culture qu'occupe M. Taïrou Barry au compte de votre parti?
Ça ne m'intéresse plus, moi, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui m'a demandé de venir être à la majorité. J'ai accepté. J'ai pris ce ministère. J'ai donné son nom. Maintenant que le Congrès l'a exclu, il n'a même pas exclu, il a constaté sa démission en bloc. Voilà, avec son groupe à lui. Alors qu'il avait accepté le congrès actuel, hein, il avait accepté, c'était un pauvre type, il avait accepté qu'on se retrouve pour la fraternité. À la dernière minute, le gars s'est refusé. Vous voulez qu'on dise quoi?
Et quel avenir pour les parents?
Le parent, le nouveau président, nous va continuer notre route. C'est tout. C'est moi qui ai créé le parti. C'est moi seul qui ai fait la doctrine du parti, ni l'Est ni l'Ouest. Ce que le monde aujourd'hui, l'évolution me donne raison. C'est moi qui ai fait le programme du gouvernement. Donc, il faut une troisième voie de développement, le tertiarisme. On est encore là-dessus de nos jours. Donc, il ne peut pas aller voler mes idées. D'autant plus que j'ai été mon propre étudiant.
Professeur Laurent Badeau, fondateur du PAREN, député et enseignant à l'université de Ouagadougou. VO Afrique a aussi contacté le ministre Taïrou Barry qui a promis de tenir demain une conférence de presse.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VO Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les relations entre Moscou et Washington se détériorent. Les dernières sanctions économiques du Congrès américain ont porté un coup de grâce aux espoirs de réchauffement suscités par l'élection de Donald Trump. La Russie a riposté en imposant une réduction drastique de 755 personnes travaillant dans les missions américaines sur son sol. Cette confrontation peut-elle mener à une nouvelle guerre froide ? Eric Manirakiza a joint Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
C'est difficile à dire en ce moment. Peut-être la course naturelle diplomatique quand il y a des pays qui ont des difficultés. Ce sont deux grandes puissances dans le monde avec beaucoup d'armements nucléaires. Donc je ne crois pas qu'on se retrouve dans une situation pareille pour le moment, mais c'est sérieux.
Qui peut basculer dans la guerre froide carrément?
Oui, s'il y a une escalation, mais vraiment les autres menaces que font face les États-Unis en ce moment, c'est la Corée du Nord, l'Iran, et bien sûr dans le Proche-Orient, mais il y a avoir des ripostes de Moscou dans cette situation parce que les sanctions visent leur industrie pétrolière et quelques individus qui sont très proches de Vladimir Poutine. Donc, c'est peut-être pas inattendu leur action pour le moment. Et ce que le Congrès a fait, en effet, c'est de demander au président de gagner l'approbation de la législature s'il veut modifier les sanctions. Et ça, c'est vraiment sans précédent depuis longtemps. Il faut peut-être remonter au défi au président Eisenhower dans les années 50, le Bricker Amendment par exemple, qui n'a pas été adopté par le Congrès. Je crois que le président Trump, il a dû accepter ce projet de loi pour deux raisons. Premièrement, il n'y avait que moins d'une dizaine de votes contre le projet de loi, donc il ne pouvait pas soutenir son pouvoir de veto. Et deuxièmement, il y a cette perception dans le grand public, évidemment dans le Congrès, que Trump était trop proche à Vladimir Poutine.
Ce projet de loi, si le président le signe, c'est-à-dire que ça va briser l'espoir de tout réchauffement des relations entre Moscou et Washington.
Ben oui, bien sûr. Il y a aussi cette perception que les Russes ont interféré dans l'élection de 2016. Les sanctions mises en place maintenant interdisent aux Européens d'avoir des commerces dans le domaine de pétrolier, etc. Et donc la plupart des pays européens ne sont pas très contents de cela. Donc il y a des rebondissements beaucoup plus grands que juste les rapports bilatéraux entre les États-Unis et la Russie.
Richard Conley de l'Université de Floride. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Sims Loumami, Morgane Guiriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.